Les parts actualités.
Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille en votre compagnie sur les ondes de Canal M. Ce sont les paractualités du 5 janvier 2017. Alors aujourd'hui, les titres: arrêt de service dans le métro, la STM veut changer les messages. Alzheimer, vivre près d'un axe routier, peut-il accroître le risque? Les urgences débordent à Québec et à Lévis. Et puis l'âge d'or de la ville de Saint-Charles-Borromée. Également à cette émission, logement abordable, une famille éprouvée critique la lenteur du processus au Nouveau-Brunswick et présidentielle au Rwanda. Les bulletins seront en papier braille. Deux entrevues aujourd'hui, d'abord avec Benoît Huot, l'athlète paralympique bien connu. On va s'entretenir au téléphone dans quelques minutes. Et puis il y aura également Doris Provencher qui sera en studio. Elle est la directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Alors, arrêt de service dans le métro, la STM veut changer les messages. C'est d'après un texte de Camille Gaillard. Interpellé par de nombreux commentaires négatifs sur la communication de la STM lors des pannes, Philippe Schnob croit qu'il est temps de trouver une meilleure façon d'informer ses clients pris dans les perturbations. Parfois, l'information qu'on donne amplifie le problème. L'arrêt dure moins longtemps que ce qu'on a annoncé, et tant mieux, mais ça devient négatif car on a annoncé un arrêt plus long, explique Philippe Schnob, le président de la STM. On a eu beaucoup de commentaires dans les dernières semaines sur comment on communique avec les clients quand il y a des perturbations dans le réseau, et je veux qu'on améliore ça. Rappelons qu'en novembre dernier, la STM a connu sa pire semaine depuis 2012 avec 5 pannes majeures en 3 jours, 2 ayant paralysé tout le réseau pendant près d'une demi-heure. Si on dit qu'il y a un arrêt de service parce que les ambulanciers aident une personne malade, les gens auraient plus de compassion, croit M. Schnob. Et puis, après un projet pilote réussi l'an dernier, tous les clients du transport adapté recevront dorénavant un appel la veille de leur déplacement. D'ici 2018, ils pourront même recevoir un appel 5 minutes avant l'arrivée du transport si la seconde phase du projet pilote de cette année est concluante. Alzheimer, les personnes vivant à proximité des grands axes routiers auraient un risque accru de développer des démences, selon une étude publiée jeudi dans The Lancet, d'après un article de Reuters. Vivre dans un environnement pollué à proximité d'un axe routier passant pourrait être un facteur augmentant le risque de maladies neurologiques, provoquant la démence, comme la maladie d'Alzheimer, indique jeudi cette étude. L'étude n'a en revanche pas réussi à établir de lien entre l'exposition au trafic routier et 2 autres maladies neurologiques, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Ils ont également découvert que les 2 polluants les plus impliqués dans la démence étaient le dioxyde d'azote, le NO2, et les particules fines émises par les véhicules à moteur, même si d'autres facteurs comme le bruit pourraient également jouer un rôle. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quelque 47,5 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, dont 60 à 70 % de la maladie d'Alzheimer, cette maladie neurodégénérative qui conduit à une détérioration des capacités cognitives et à une perte progressive d'autonomie. Notre étude suggère que le trafic routier pourrait être une source de stress environnemental capable de favoriser l'apparition de la démence, révèle le docteur Hong, qui reconnaît que de nouvelles recherches sont indispensables pour préciser ce lien. Plusieurs experts indépendants se sont pour leur part montrés prudents, relevant que l'étude ne permettait pas de déterminer précisément le rôle joué par la pollution dans la démence. Nous ne pouvons tout simplement pas dire si c'est dû à la pollution ou à d'autres raisons, relève le professeur Tom Denning, directeur du Centre pour la vieillesse et la démence de l'Université britannique de Nottingham. Il a vécu toute une année en 2016 et nous sommes très très heureux ici de le réentendre. Benoît Huot, bonjour.
Hey, bonjour, bonne année.
Bonne année, Benoît. Que d'émotions, hein?
Ça a été une grande année,
oh!
Non seulement les Jeux paralympiques, certainement peut-être même mai dernier, Jeux paralympiques comme athlète. 4 ans, c'est long, hein?
Alors, c'est long, hein?
J'aimerais bien y être encore en 2020, mais je suis conscient qu'à la mi-trentaine, plusieurs choses vont arriver, avec une carrière aussi qui s'échelonne sur près de 15 ans déjà. Ouais. Puis vite conclure 2016 et débuter 2017 avec la nomination à l'Ordre du Canada, ça a été une belle année qui se termine et puis beaucoup d'émotions.
Mais Benoît, de toute façon, vous ne pourrez plus participer parce que maintenant que vous avez croisé l'athlète néerlandais à l'arrière et que vous lui avez dit « t'en fais pas bonhomme, je ne serai plus là dans 4 ans », il serait déçu, hein, s'il fallait que vous reveniez.
Oui, effectivement. Mais l'affaire, c'est que... Il y a plusieurs façons de voir les choses. Oui. Soit que je serai plus là dans son champ de vision, dans la course, parce qu'il va être tellement en avance. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison. La relève, ça pousse. Ils sont là pour faire avancer le sport. Et puis, effectivement, je pense que le plus grand défi, si je suis encore athlète, par exemple, en 2020, c'est essayer de rester au sommet de la pyramide et continuer à s'améliorer. Parce que c'est ça qui est difficile, hein, quand on fait un sport et puis qu'on prend de la maturité, on prend de l'expérience, mais le corps a ses limites et le défi du sport.
Mais c'est même, Benoît, la raison pour laquelle cette médaille de bronze que vous avez reçue avait une saveur de médaille d'or. C'est qu'il a fallu que vous travailliez tellement contre les jeunes qui améliorent beaucoup, qui vont plus loin, que pour vous, déjà, recevoir une médaille, c'était peut-être pas inespéré, parce que sinon, vous n'auriez même pas participé, mais c'était fantastique, quoi.
Ah oui, absolument. Je pense que vous l'avez bien saisi. J'ai amélioré mon chronomètre par plus de 2 secondes sur cette distance-là.
Incroyable.
À l'âge de 32 ans. C'est presque du jamais vu dans notre sport. Surtout plusieurs années. Et c'est ce qui me rend le plus fier, je crois, par rapport à 2016 et les Jeux de Rio, c'est d'avoir été capable, après toutes ces années, si ce n'est pas les centaines, les milliers de fois que j'ai répété le 200 mètres et le 400 mètres, avoir conclu sur une excellente note, non seulement un podium, mais des meilleurs chronomètres. C'est ce qui est le plus difficile dans notre monde. Puis le parallèle qu'on peut faire, c'est drôle, parce que on connaît tous le grand champion nageur, Michael Phelps, certainement le plus grand Olympien de l'histoire. Mais Phelps s'est présenté à Rio cet été avec 6 médailles. Il a sorti de Rio avec 6 médailles, dont 5 en or. Mais croyez-le ou non, il n'a pas fait un meilleur chronomètre personnel.
C'est j'avais pas drôle. Relevé ça.
Alors, pour dire que notre mouvement, qui est celui du paralympique, continue à évoluer, continue à grandir, et les médailles sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Alors, si on n'a pas une courbe qui s'accélère et qu'on continue à s'améliorer, mais les médailles vont être impossibles à aller chercher. Alors, c'est la beauté de notre mouvement, et puis on est content que ça soit ainsi, parce que ça prouve que notre crédibilité, la notoriété en prend un bon coup.
Si tant est, on comprend même pas qu'il faille encore prouver à quel point c'est nécessaire, quoi, et à quel point c'est du sport. C'est fou, mais on rame encore pas mal. Hein?
oui, effectivement, mais on est dans la bonne direction.
Oui,
Je pense que ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le sport.
Oui.
Et c'est jour et nuit versus mes débuts. On s'en va dans la bonne direction. Mais c'est sûr que le rêve ultime, et puis ça, je pense que je le vivrai pas comme athlète, mais j'espère le voir de mon vivant, de voir la médaille d'or paralympique avoir la même valeur aux yeux du grand public, puis pas une valeur monétaire, mais une valeur sentimentale à la médaille olympique.
Okay.
Alors, c'est ça l'objectif, et puis il faut continuer à travailler fort et continuer à investir et conscientiser et éduquer. Les gens sur ce que c'est les sports paralympiques.
Mais d'ailleurs, c'est la mission que vous vous êtes un petit peu donnée maintenant, Benoît, là, non?
Absolument.
En dehors de la piscine, là.
C'est un peu un rôle ou une mission ou notre cheval de bataille de continuer à faire grandir. Et aussi, c'est drôle parce qu'on doit aller à la base. Hein? Il y a environ 10 % de la population canadienne qui vivent avec une forme de handicap. Alors ça, on parle de 3,5 millions de Canadiens ou à peu près 800 000 Québécois.
Merci de le rappeler, Benoît.
Sur 800 000 Québécois qui vivent avec une forme d'handicap, seulement 3 % pratiquent une activité sportive sur une base régulière. Alors ça, pour moi, là, ça me rend triste.
Mais finalement, c'est le même pourcentage que pour les gens qui ne sont atteints d'aucune forme de handicap. Il y a finalement, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit énorme.
On est beaucoup
Ah, vous
plus
êtes
bas.
Beaucoup plus bas.
Oui, absolument, parce que c'est une question de manque de confiance, manque d'accessibilité. Mm-hmm. Quelqu'un qui est en fauteuil, à mobilité réduite, n'aura pas nécessairement l'opportunité de s'épanouir dans une salle d'entraînement traditionnelle comme on les connaît. Mm-hmm. Alors, par manque d'accès, il va rester à la maison, il ne pourra pas grandir et évoluer et s'épanouir par le sport et par le jeu. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on doit prendre en considération parce que les gens qui vivent dans la différence vivent dans leur quotidien des défis supplémentaires. Alors, de leur offrir une accessibilité et de s'épanouir par l'activité physique et les saines habitudes de vie est une priorité pour nous.
Benoît Huot, lorsque je vous vois nager, lorsque j'ai encore cette image de vous à la ligne d'arrivée, vous retournant, mettre le coude sur les câbles, merci, et puis célébrer cette médaille de bronze, bon, premièrement, mais lorsque je vous entends également parler du milieu paralympique, du sport et de tout ce qu'il faudra encore faire, je comprends tout à fait que vous soyez fait membre de l'Ordre du Canada prochainement. C'était vraiment la moindre des choses.
Oui, c'est vraiment à apprécier. Effectivement, c'est difficile à mettre en mots,
oui.
Mais c'est beaucoup d'émotions.
J'imagine.
C'est aussi humilité. Hein.
Oui.
Oui, mais c'est
parler d'abord d'humilité.
C'est très symbolique. Hein,
oui.
C'est le genre de médaille qu'on s'y attend pas. Mm-hmm. Et ce qui me rend... c'est drôle parce que je disais à ma conjointe quand on a eu la nouvelle, je suis tellement content de pouvoir recevoir cet hommage, ce prix, si c'en est un, à l'âge de 32 ans, parce que j'espère et j'aurai la chance de pouvoir porter les insignes fièrement pour plusieurs années.
Oui.
Ça c'est drôle, hein, mais c'est symbolique, hein, mais c'est... ça me fait chaud au cœur et puis on va célébrer à l'investiture qui va avoir lieu en février et puis ça me fait chaud au cœur et ça me motive. Je pense que c'est le mot. Ça me motive à poursuivre cette mission et de continuer à aider la prochaine génération de personnes qui vivent dans la différence et j'espère avoir l'opportunité, une position après la carrière sportive pour me permettre de continuer dans ces eaux-là.
Bravo Benoît, on a besoin de vous et vous savez que les portes de Canalem vous sont grandes ouvertes.
Hein? Vous êtes bien gentil. Alors, c'est gentil de m'avoir invité.
De rien.
On va se reparler dans les prochains mois.
D'accord. Alors,
bonne année.
Oui, à vous aussi. Au revoir Benoît.
Merci.
Au revoir. C'était Benoît Huot sur les ondes de Canal M en entrevue. Alors, par actualité régionale maintenant, les urgences débordent à Québec et à Lévis. L'achalandage est lié à des blessures et à la gastro. Les urgences de Québec et Lévis sont très achalandées en ce retour de fête. Et toutefois, ce n'est pas la grippe qui congestionne les hôpitaux, mais bien les blessures liées aux dernières tempêtes de neige. C'est d'après un texte de Catherine Bouchard. Les 5 hôpitaux du centre hospitalier universitaire, le CHU de Québec, débordent alors que le taux d'occupation en général est de 135%. En fin de journée, l'hôpital de l'Enfant-Jésus avait 68 patients pour une capacité de 48. On a un achalandage assez important, mais pas nécessairement extraordinaire par rapport à la période de l'année où l'on est, mentionne Jean-Thomas Grandhomme, le porte-parole pour le CHU de Québec. Alors que la gastro et la grippe donnent un répit aux urgences cette année, eh bien c'est Dame Nature qui prend la relève, augmentant les consultations en orthopédie. Les choses que l'on m'indique sont plus liées aux conditions météorologiques des gens qui ont chuté ou des blessures en pelletant, voilà, poursuit M. Grandhomme. À l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le taux d'occupation est de 145%. Et encore là, aucune éclosion de grippe n'est rapportée. Les problèmes de nature orthopédique font également partie des raisons de consultation, selon la porte-parole. En fin de journée, le site du ministère de la Santé et des Services sociaux affichait un taux de 20,1% de tests positifs pour l'influenza, avec une tendance à la hausse de l'activité grippale. Et puis, le Québec du troisième âge, eh bien, c'est l'âge d'or de Saint-Charles-Borromée. Le vieillissement de la population n'est pas une fatalité pour toutes les villes. Au contraire, pour certaines, le phénomène rime même avec prospérité. C'est le cas de Saint-Charles-Borromée dans la Naudière, qui connaît un véritable âge d'or avec l'arrivée massive de personnes âgées. Le secret de son succès, la proximité des soins de santé. C'est d'après un texte de Pierre-André Normandin dans La Presse. La population de Saint-Charles-Borromée est passée de 11 000 habitants à près de 14 000 en 2015, selon l'Institut de la statistique du Québec. Les données démontrent qu'il s'agit essentiellement de personnes de 55 ans et plus. Ce groupe a plus que doublé au cours des 15 dernières années, tandis que les autres tranches d'âge ont toutes décliné. On est juste à côté d'un gros centre hospitalier. Les gens veulent se rapprocher des services, résume André Hainaut, le maire de Saint-Charles-Borromée depuis 1988. Alors, c'est une arrivée massive de retraités qui a insufflé un vent de prospérité à cette ville. Restaurants, pharmacies, banques et autres petits commerces sont poussés autour des résidences pour personnes âgées. Et puis, devant le nombre croissant de ces personnes sur son territoire, Saint-Charles-Borromée a entrepris d'adapter ses services. Ces gens, il faut les écouter, résume le maire André Hainaut. La ville a notamment entrepris de repenser l'aménagement de ses parcs, rues et pistes cyclables. On appelle ça des pistes cyclables, mais maintenant, il y a les triporteurs qui y circulent et on commence à se demander si on devra élargir, dit Claude Crépeau. J'ai l'habitude de lui parler par téléphone, alors je suis très, très heureuse aujourd'hui qu'elle soit en face de moi. C'est Madame Provencher, Doris Provencher, bonjour.
Bonjour Madame Seil.
Alors je rappelle Madame Provencher que vous êtes directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Non, Québec tout court, on ne dit pas du Québec. Hein.
La GDSMQ, on dit ce qu'on veut.
Quoi. On dit ce qu'on veut oui. Parce que vous vous dites toujours, comment vous dites AGDSMQ?
AGIDE.
AGDSMQ. C'est vrai que ça se dit tellement mieux,
oui.
Hein, comme acronyme. Oui. AGDSMQ. Oui. Et c'est également votre site internet, j'imagine, si on veut vous
exactement.
Trouver. Donc, si on fait AGID, on va tomber
AGID.
Sur vous.
AGID.org.
Et on tombe sur vous.
Oui.
Madame Provencher, je sais qu'on s'était déjà parlé de la mission de votre organisme,
oui.
Mais je me mets toujours à la place un petit peu des gens peut-être qui ne vous connaîtraient pas. Voudriez-vous nous rappeler quelle est la mission
oui.
de l'organisme?
Alors écoutez, la mission de l'AGID, c'est bien sûr de faire la promotion et de prendre la parole pour défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. C'est la mission... première, essentielle et unique de l'organisme.
Alors, quand vous dites santé mentale,
ouais.
ça va de quoi à quoi?
Écoutez, nous, on travaille avec les personnes qui se reconnaissent comme ayant un problème de santé mentale. On ne travaille pas avec les diagnostics.
Non.
Parce que pour nous, les diagnostics, vous savez, ça varie. Hein?
Ouais.
Il y a des gens ouais. qui en ont 6, qui en ont 7, qui en ont 4. Alors, donc,
ouais.
Mais des gens qui se reconnaissent comme ayant un problème de santé mentale, donc... c'est avec ces personnes qu'on travaille. Je veux souligner, excusez-moi.
Oui, non, je vous en prie, au contraire,
oui.
allez-y.
Alors, nous sommes un organisme provincial, donc on n'offre pas de service direct
okay.
aux personnes.
OK.
Dans toutes les régions du Québec, il y a un groupe régional de promotion et de défense de droits pour les gens qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale. Et nous, en fait, on regroupe une majorité d'entre eux au sein de notre association. Et notre travail, c'est vraiment plus de faire la promotion comme de venir ici ce
bien
matin
sûr,
pour
oui.
présenter, comme par exemple de réagir à des projets de loi, de réagir à l'actualité, mm-hmm. toujours avec le souci d'amener... à l'attention du public, l'autre côté de la médaille.
La médaille. Mmh. Alors, en ce moment, à quoi réagissez-vous, Mme Provencher?
Bien là, je vous avouerai que c'est un peu les vacances, quand
Ah-ha!
Même. Oui, mais c'est sûr qu'avant les vacances, il y a eu des réactions à des événements tragiques et malheureux, bien sûr, incompréhensibles et inexcusables.
Oui, on pense par exemple à ce jeune homme qui a laissé quoi, 2-3 victimes à derrière
exactement,
lui.
Exactement. Et donc, souvent, on est interpellé parce qu'on veut comprendre, puis des fois, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre? C'est pas toujours évident. Mais ce qui est évident, c'est que sur le nombre de personnes qui vivent un problème de santé mentale, c'est vraiment une très petite minorité qui pose des gestes aussi spectaculaires
bien
et violents. Là.
Et puis, le problème aussi, et la grande question, c'est les structures existent-elles pour accueillir ces gens-là?
Oui, moi je dis toujours, et pour voir, parce que ça fait quand même 2-3 ans que je fais ce métier, il manque beaucoup de services dans la communauté, proche des personnes, vraiment pour que quand j'ai un problème puis que je vais pas bien, je peux pas attendre 2 semaines. Il faudrait que je puisse, le plus tôt possible, voir quelqu'un, pouvoir en discuter, pour voir... Et ça manque cruellement.
Vous êtes arrivée là comment, Mme Provencher? Parce que là, tout d'un coup, vous nous avouez que c'est assez récent. Non, parce que je pense qu'on est tous et toutes assez curieux de savoir comment les gens, finalement, arrivent à donner de leur vie comme ça. Ouais.
En fait, je faisais une mauvaise blague parce que ça fait 26 ans que je fais ce métier.
Ah bon, d'accord.
Et j'y suis arrivée un peu... par hasard ou par destin, je ne sais trop. La vie m'avait amené en région, je me cherchais du travail, est arrivé le communautaire, la santé mentale, la défense de droit. Et j'ai vraiment trouvé la défense de droit, là. C'est moi.
Oui. Les dossiers à suivre en 2017?
Bien, écoutez, en début d'année, en principe, on va à une commission parlementaire au niveau de la maltraitance. On parle de maltraitance pour les personnes aînées, mais pour toute personne. Et nous, ce qu'on veut amener, il y a la maltraitance, bien sûr, individuelle, au sein de la famille, etc.
Oui.
Nous, ce qu'on veut amener aussi, c'est toute la maltraitance institutionnelle et systémique. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe sur un département de psychiatrie. On n'a pas assez de temps, je pourrais vous en parler des heures, mais les détails, il y a de la violence institutionnelle et il y a de la maltraitance institutionnelle aussi, qu'on ne parle pas. Donc, il y a ce côté-là qu'on veut amener. C'est toujours...
Mais pourquoi les instances... Je veux dire, parce que là, on parle des instances gouvernementales. Pourquoi le monde ferme-t-il les yeux là-dessus? Comme en 2017, enfin, c'est fou.
Parce que, vous savez, la première chose, lorsque tombe le diagnostic psychiatrique, la première chose qu'on perd, c'est notre crédibilité. À partir de là, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, va être analysé à travers ce diagnostic. Donc, on ne me croit pas. On ne m'écoute pas vraiment. Je suis une malade mentale et j'ai besoin d'être contrôlée. Alors, et c'est pas par mauvaise volonté, c'est pas par sadisme, c'est comme le système est fait comme ça.
Comme ça.
Et on y va comme ça. On ne me croit pas.
Non,
alors,
c'est ça.
Tout ce que je veux dire. Donc, c'est beaucoup le contrôle. En psychiatrie, il y a beaucoup... On veut contrôler les gens par la médication, par des moyens mécaniques, souvent, par nos paroles. On veut contrôler les gens. Et ça, j'aimerais beaucoup...
Que ça cesse?
Ben oui,
mais comment?
Que ça cesse. Et quand vous nous offrez l'opportunité de parler sur des ondes comme ça, c'est très aidant pour nous.
Eh bien, Mme Provencher, en plus, ce ne sera pas la dernière.
Hein.
Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois qu'on pourra aborder cette problématique avec vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Vous êtes déplacée malgré le froid.
Bien, c'est moi qui vous remercie.
Bonne fin de journée et bonne année, tiens.
Bonne année à vous.
Logement abordable, une famille durement éprouvée critique la lenteur du processus au Newbie. La famille d'une femme qui est restée coincée dans un logement au sous-sol durant un incendie critique la lenteur du processus pour l'obtention d'un logement abordable et sécuritaire au Nouveau-Brunswick. Kimberly Melançon repose à l'hôpital depuis une semaine, couverte de brûlures. Un feu a éclaté lundi dernier dans la maison de la rue Church où elle habitait. Elle est restée prisonnière des flammes dans son logement situé au sous-sol. Étant atteinte de sclérose en plaques, elle a de la difficulté à se déplacer. Elle n'a pas pu gravir les marches de l'escalier. Je suis restée dans la maison 5 minutes avant que les pompiers arrivent. Je me suis protégée avec les bras en attendant, affirme Mme Melançon. Kimberly et son conjoint sont inscrits depuis 3 ans sur une liste du gouvernement pour avoir accès à un logement abordable au rez-de-chaussée, plus sécuritaire. Je suis désolée de ne pas pouvoir sortir et gagner de l'argent. C'est dur de vivre avec 900 dollars par mois, ajoute Mme Melançon. Attendre 3 ans, c'est long et c'est terrible de devoir passer à travers tout ça. Ils nous ont dit que ce n'est pas une liste où ils rayent des noms. Ils y vont par priorité. Je suppose que maintenant, c'est une plus grande priorité de dire Jessica Melançon, la sœur de Kimberly. Depuis l'incendie, l'organisme Big Hearts Small City aide le couple à chercher un logement situé au rez-de-chaussée. Ils ont trouvé pour elle un logement sécuritaire, rue Robinson, et nous avons appris qu'elle aura peut-être un logement abordable, autrement dit subventionné, dans le même immeuble, explique sa sœur. Fredericton et Ottawa ont annoncé en 2014 un investissement conjoint de 78 millions de dollars sur 5 ans pour aider les familles qui cherchent un logement à prix abordable. Le plus récent rapport annuel de ce programme souligne que 1598 logements abordables destinés aux personnes seules, aux familles, aux aînés à faible revenu et aux personnes handicapées ont été construits ou réparés en 2015-2016. C'était d'après le reportage d'Anne-Marie Provost. En rafale maintenant, quelques petites nouvelles et peut-être surtout quelques idées de sortie pour vous. Tiens d'abord, si vous êtes sur la rive sud de Montréal, le Conseil canadien des aveugles de Longueuil vous propose cette saison hivernale de quilles que peut-être beaucoup d'entre vous attendent. La saison débutera le dimanche 8 janvier, donc dimanche prochain, et se terminera le 23 avril, c'est-à-dire 13 semaines régulières et 2 semaines pour les demi-finales et les finales. Ça se passe au 2e étage du salon de quilles du Club 300, situé au 1626 Boulevard Taschereau à Ville-le-Moine. L'accueil à 13h30 et le coût, bien, c'est 8,50 $ par semaine pour le membre et pour le guide. Et ce prix inclut 3 parties de quilles. Des frais additionnels de 2 $ sont demandés pour la location des souliers. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site du Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Vous entendrez également parler à ce moment-là du repas des rois, le souper des rois qui aura lieu samedi prochain, le 7 janvier 2017, au restaurant Montaza, situé au 2877 Chemin de Chambly à Longueuil. Là encore, si vous désirez y participer, devenir le roi ou la reine, eh bien, merci de contacter le Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités du jour. C'était Clotilde Say qui vous les présentait. Clotilde Say qui remercie son équipe, toujours fidèle tous les jours, Martin Forgue et aujourd'hui Mathieu Tessier en régie. Passez une belle journée et à demain, 11h30. Non, lundi prochain, lundi!